pourquoi, un podcast qui explore l'actualité pour les enfants, mais pas que.
Et pourquoi ?
Devant un écran, je passe pas mal de temps.
Pourquoi ? Ben moi, je vais aussi beaucoup sur TikTok, quasiment toute ma journée.
Limite, je me sens sale, genre j'ai l'impression, c'est bon, ça fait 4 heures, je suis sur mon téléphone, dans mon lit, je fais rien.
C'est un peu comme de la drogue, donc c'est addictif, quoi.
Et pourquoi j'arrive pas à me détacher de mon téléphone ?
Commençons, tiens, par un petit sondage. Dans la classe de 6e primaire de l'école Sainte-Thérèse de Lierneux, chacune et chacun a fait ses petits calculs pour évaluer le temps passé chaque semaine sur son téléphone portable.
7 heures.
22 heures par semaine.
18 heures par semaine.
8 heures par semaine.
23 heures par semaine.
Moi, c'est 7 heures par semaine.
À peu près 13 heures et demie.
J'entends déjà d'ici quelques adultes ricaner, et pourtant, je suis sûr qu'il y en a plein, dont moi d'ailleurs, qui y passe bien plus de temps. Une étude réalisée par un institut de sondage en 2019 estimait que les adultes en Belgique passent en moyenne 4h46 par jour devant un écran, en plus de celui qui leur sert à travailler, donc en plus de l'ordinateur du bureau. Prenons la calculatrice.
Alors, c'est combien ?
4h46 x 7.
Non, je ne vais pas crier.
Ça fait plus de 33 heures par semaine.
Combien ?
Mais pourquoi est-on tellement accroché à ces écrans ? Qu'est-ce qui nous pousse à les regarder si souvent et à avoir beaucoup de mal à s'en détacher une fois qu'on les a sous les yeux ?
On oublie le temps, parce qu'on continue à regarder, puis après, pour finir, il est déjà l'heure passée.
On se dit, là, je vais arrêter, mais on n'arrête pas, on continue à regarder.
Souvent, par exemple, quand on regarde des photos, toujours on voit une meilleure, donc à chaque fois on continue à défiler jusqu'au moment où on est privé.
Et si l'on reste parfois des heures sur des plateformes comme Facebook, YouTube, Netflix, Instagram, TikTok, c'est précisément parce que c'est ce que veulent ces plateformes numériques, que l'on reste un maximum de temps. Mais au fond, pourquoi ?
Pour gagner de l'argent.
Bien vu, sauf que les applications sont le plus souvent gratuites. Alors comment ceux qui les construisent s'y prennent-ils pour gagner de l'argent ? Et pourquoi ont-ils besoin pour cela de nous rendre progressivement accros ? Pour y voir clair, on va appeler une spécialiste de tout ça qui habite à Paris.
Je m'appelle Barbara Chazelle, j'ai travaillé pendant 8 ans à France Télévisions et je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement des réseaux sociaux pour analyser les usages et l'impact du numérique sur nos sociétés.
Et Barbara Chazelle confirme d'entrée de jeu l'analyse que faisait Noé sur l'intention des plateformes comme Facebook, Snapchat ou encore TikTok.
Leur but, c'est de faire du profit, de faire de l'argent. Et donc, comment est-ce qu'on y arrive quand on est une grande entreprise comme ça ? Eh bien, c'est soit par la pub, ou alors en nous poussant à aller vers une version payante. Donc ça marche pour par exemple, Tinder, LinkedIn ou même certains jeux en ligne aussi. Et ou en exploitant les données personnelles des utilisateurs. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ses goûts, son intérêt, mais surtout ce que l'utilisateur fait. Donc où il est, avec les données de géolocalisation, à quelle heure est-ce qu'il est sur l'application, sur quel écran, avec qui il interagit. C'est tout ça qui va intéresser ces applications. Et donc, tout est pensé pour récupérer ces données-là et après les revendre.
Arrêtons-nous un peu là-dessus. Parce que, pour ce qui est de la publicité, tout le monde voit bien à peu près de quoi on parle. Les pubs, on les voit passer au milieu des vidéos YouTube, dans des fils Facebook ou Instagram, ou même parfois de manière un peu plus subtile quand elles se cachent dans les conseils de tel ou tel influenceur ou influenceuse.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit haul try-on en collaboration avec Mango pour leur nouvelle collection automne-hiver.
Donc, ça, c'est pour la pub. Les versions payantes, dont parlait Barbara Chazelle, ce sont par exemple des jeux où il faut payer pour avoir accès à des versions plus développées, plus poussées, ou pour avoir certains accessoires, comme dans le jeu Fortnite, par exemple. Le troisième point, c'est l'enjeu des données personnelles. Et ça, c'est ce qu'on présente souvent comme le trésor de guerre des grandes plateformes de réseaux sociaux, ce qui doit leur permettre de gagner le plus d'argent. Mais comment ça marche en fait ? Eh bien, Barbara Chazelle nous explique que c'est lié à la possibilité aujourd'hui de faire de la publicité qui nous vise de plus en plus précisément.
Dans l'ancien monde des médias, avant les annonceurs, donc ceux qui vendent des publicités, qui ont des produits à vendre, ils faisaient une publicité à la télévision ou dans la presse, et puis voilà, le spot pub y passait, mais les annonceurs ne savaient pas du tout qui regardait ce spot-là. Avec les applications, aujourd'hui, le numérique de manière générale, en fait, c'est possible de cibler précisément les personnes qui vont voir ces publicités-là. Donc ça vaut très cher parce que ça veut dire que la publicité va être plus efficace et que donc l'utilisateur a plus de chances d'être séduit par le produit qui est proposé.
Prenons un exemple. Une société qui vend des barres chocolatées. Elle peut faire une grande publicité à la télévision ou sur des panneaux le long de la route pour faire connaître son produit. Mais ce qui est plus intéressant pour elle et plus efficace, c'est de pouvoir aller adresser sa publicité directement aux personnes qui ont des chances d'avoir besoin ou envie justement de ces barres chocolatées. Et ça, le fait de savoir sur qui la publicité a le plus de chances de fonctionner, c'est une information que les grandes plateformes numériques vont pouvoir proposer et surtout vendre.
Ils vont pouvoir aller voir donc la personne qui vend les barres chocolatées et leur dire bah voilà, parmi mes utilisateurs, j'ai tant de personnes qui aiment le chocolat ou là qui aiment faire des pique-niques l'été et donc ce serait bien qu'ils aient des barres chocolatées dans leur sac pour faire une pause. Et donc c'est comme ça que les annonceurs vont dire ah bah oui super, c'est à eux prioritairement qu'on va parler de notre barre chocolatée.
Vous avez compris, c'est lié à la pub. Ces informations permettent de rendre la publicité bien plus efficace qu'elle ne l'était hier. Et pour arriver à savoir tant de choses sur nous, voilà quel est le plan des grandes plateformes comme Facebook, Google, Amazon, mais aussi Snapchat ou TikTok.
Le plus d'utilisateurs possible, qui passent le plus de temps possible, ça c'est le deuxième point, et que les utilisateurs en plus soient actifs. Donc en fait, c'est sur ces trois choses que les applications vont jouer.
Tu me donnes tout de ton image, je te suis comme ton poumon. Je pourrais te mettre au chômage avec toutes ces informations. Et je sais même ce que tu vas acheter. C'est normal, c'est moi qui l'ai décidé.
Penchons-nous alors maintenant sur les stratégies mises en œuvre pour que nous restions accrochés le plus longtemps possible. Avec notamment ce que l'on appelle l'autoplay. Vous avez remarqué, sur la plupart des réseaux sociaux, les vidéos défilent sans qu'on ait besoin de les choisir, ni même de les faire démarrer.
On n'a pas à choisir la vidéo qui suit. Elle nous est proposée automatiquement et non seulement ça, elle se met en mode play toute seule, en mode lecture toute seule. Parce que en fait, le choix par défaut nous satisfait de manière générale en tant qu'humain. C'est beaucoup plus facile quand on nous propose quelque chose que quand on doit chercher nous-mêmes ce qui nous plaît. Donc ce système d'autoplay aussi, ça va nous garder un peu plus longtemps sur l'application.
Autre système, ce que l'on appelle le scroll infini.
En fait, on n'arrive jamais au bout de tout ce qui est proposé dans l'application. Et là aussi, ça va chercher quelque chose, un mécanisme humain, qui est qu'on n'est pas satisfait quand on n'a pas fini une tâche. Quand on n'a pas fini quelque chose, en fait, notre cerveau va nous pousser à achever cette tâche-là. Or, avec le scroll infini, par définition, et l'autoplay, en fait, on n'a jamais fini. Il y a toujours quelque chose. Donc, en fait, on va passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on a l'impression qu'on va quand même arriver au bout de quelque chose et en fait pas.
Oui, par exemple, TikTok, c'est comme on en avait parlé en classe, ça se finit jamais, enfin, c'est infini. Il y a ton fil d'actualité, il se finit jamais. Il y a des TikTok à l'infini, donc tu peux pas t'arrêter.
En plus, comme c'est pas long, c'est genre 15 secondes le TikTok, je me dis ok, encore... Encore 5 et après je continue.
Et puis, un moyen très puissant imaginé par les plateformes pour que l'on ait envie de les utiliser le plus possible, c'est de jouer sur nos relations sociales. Avec du positif, évidemment. On a vu pendant le confinement à quel point cela pouvait nous permettre de garder des contacts avec plein de copains et de copines qu'on ne pouvait plus voir parce qu'on devait rester chez soi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais attention, il faut quand même remarquer que les concepteurs des réseaux sociaux ont bien compris notre besoin de relations sociales et qu'ils s'en servent au maximum.
Pour avoir le plus d'utilisateurs possible, les applications vont jouer sur le fait que les êtres humains, de manière générale, aiment les interactions sociales et tout particulièrement l'amitié. et ben ça, notre cerveau, il aime bien. Il aime bien quand on a des amis et quand on interagit avec eux. Et en fait, pour se faire des amis, et ben il faut s'intéresser à l'autre. Il faut lui donner l'impression que l'autre est important. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Et donc, en fait, ça, les plateformes l'ont très bien compris. Et donc, elles vont activer ce besoin de socialisation. Ils vont instaurer le fait de suivre des gens et de créer des communautés.
Nos groupes d'amis, les personnes qui nous suivent, qui likent et qui commentent nos publications.
Et toi, tu veux pas être mon pote? On peut jouer à Uno sur Internet.
Ah oui, mais ça, je veux pas.
Non, non. Ok, c'est dommage.
Et prenons un exemple très concret d'une application qui pousse assez loin ce besoin de réciprocité dont parle Barbara Chazelle, à savoir donc l'idée qu'on doive démontrer notre amitié à d'autres et que l'on attend qu'ils nous la démontrent en retour. Cet exemple, ce sont les fameuses flammes dans Snapchat.
Bah sur Snapchat, par exemple, après 3 jours, si on s'envoie des photos chaque jour, à partir de 3 jours, on va gagner des flammes. Donc chaque jour qu'on va faire envoyer une photo à la même personne, par exemple après 300 jours, t'auras 293 flammes.
L'idée c'est que chaque jour qui passe, à chaque fois qu'on envoie au moins un contenu à cet ami, on a une autre flamme qui arrive. Donc on a des gens qui ont 300 flammes, 400 flammes. Ça veut dire que pendant 400 jours d'affilée, on s'est envoyé du contenu avec cet ami en question. Mais si pendant 24 heures, on a oublié ou on n'a pas pu envoyer un contenu, et ben on perd toutes ces flammes. Donc on repart à zéro.
Forcément, du coup, difficile de laisser le téléphone quelques jours dans un tiroir, d'autant que l'on sait en plus que nos amis pourraient très mal interpréter le fait que l'on ne leur envoie plus de messages.
Quand on voit le message et qu'on répond pas, les gens peuvent peut-être le prendre mal. Donc moi, par exemple, quand mes amis voient que j'ai vu le message, je réponds directement.
La personne, si on voit qu'elle l'a vu, qu'elle répond pas, on va se poser des questions.
Exemple, moi, tu me réponds pas à un message, je commence à m'inquiéter.
Le fait de plus avoir de flammes, en tout cas, ou de plus avoir de likes, de plus avoir de notifications de ses amis, en fait, le cerveau va l'interpréter comme le fait qu'on est un peu rejeté de ses amis. Et ça, c'est très violent parce qu'en fait, la zone du cerveau qui est activée quand on est rejeté, c'est la même que la douleur physique. Donc en fait, on n'aime pas du tout ce sentiment de rejet de ses pairs, de sa communauté, de ses amis. Donc en fait, on va vouloir l'entretenir à l'infini, cette relation, même si elle est que numérique, parce que c'est un signe qu'on est intégré, qu'on a des amis et qu'on est en relation sociale avec d'autres.
Bref, tout ça fait qu'on a beaucoup de mal à laisser le téléphone de côté, qu'on est tenté de l'ouvrir très souvent et de nourrir ces réseaux sociaux par nos messages, nos commentaires, nos photos, nos vidéos, nos chorégraphies, toutes choses qui en disent beaucoup sur nous.
C'est un peu comme de la drogue, donc c'est addictif, quoi.
Comme une drogue. Le mot est lâché.
Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez.
Mais est-ce que c'est le bon mot, d'ailleurs, pour qualifier notre grande difficulté à nous détacher des écrans? On va aller pousser la porte de quelqu'un qui étudie tout cela du point de vue psychologique.
Alors, je suis Bruno Humbeek, donc je suis professeur à l'Université de Mons et Nantes. Et je travaille sur tout ce qui touche l'éducation scolaire, mais aussi familiale, et donc la problématique des écrans en tant que média éducatif essentiellement.
Alors qu'est-ce qu'il pense, lui, Bruno Humbeek? Est-ce qu'il faut parler d'une drogue?
C'est pas une drogue, du tout, du tout, du tout. Ou alors vous allez considérer que le chocolat est une drogue aussi. On peut être aliéné au chocolat, on sait pas s'en passer, on en a vraiment fort envie, donc une forte appétence. C'est ce qui fait la différence entre l'aliénation et l'addiction. Vous n'allez pas tomber dans une crise de manque si vous ne trouvez pas de chocolat. Vous allez trouver ça très emmerdant de ne pas avoir de chocolat alors que vous avez envie de chocolat, mais ça ne crée pas un manque. Et le mot addiction laisserait penser qu'on est dans un manque sidérant, c'est-à-dire qui va faire en sorte que vous ne savez rien faire d'autre que d'attendre que ce manque soit comblé. Donc la comparaison avec la toxicomanie est très dangereuse, notamment au niveau des oreilles des parents, mais aussi des enfants et des adolescents qui se disent « est-ce que je ne suis pas addict ?» Alors que la question qu'ils doivent se poser, c'est « est-ce que je ne suis pas aliéné ? » C'est-à-dire « est-ce que je suis en mesure de m'en passer ?»
Pour lui donc, on est en mesure de se passer de nos téléphones, même si c'est parfois compliqué. Et il fait une comparaison qui, moi, me parle bien et qui devrait sans doute parler à toute une série de parents de ma génération. C'est comme quand, en période d'examen, au mois de juin, quand on était plus jeune, on trouvait toujours beaucoup plus intéressant d'aller regarder les matchs de tennis de Roland-Garros plutôt que d'étudier. 30, 40.
Vous êtes en plein examen, vous avez dit, moi, je vais regarder un jeu. Puis le jeu est un peu plus acharné que prévu, il y a de très très beaux points. Bon, je vais regarder le suivant quand même, hein, ça commence à... Et ça crée chez vous, alors que vous savez que vous regardiez ou que vous ne regardiez pas, ça n'aura aucune influence sur le résultat et ça ne vous apportera objectivement rien. Eh bien, vous pouvez rester parfois jusqu'à une heure et demie, deux heures, voire plus, à rester coincé dans un match alors que vous deviez étudier. Ça va créer chez vous une culpabilité énorme. Hein, et l'effet Roland-Garros, on l'a connu parce qu'il était tout souvent en plein blocus. Eh bien, c'est le même mécanisme que l'adolescent qui se laisse prendre par un mécanisme notamment sur les jeux ou sur les réseaux sociaux, dans lequel il obtient des satisfactions, il voit un paysage nouveau se développer. Oh, et si c'est pas pour deux minutes, et puis vous restez dans les deux minutes, vous allez avoir des récompenses. Et donc vous allez rester encore 3-4 minutes supplémentaires. Et là, ça va créer cette aliénation, mais la même aliénation que celle que vous aviez pour un match de tennis à Roland-Garros. Et vous n'auriez jamais pensé à me dire, tiens, Roland-Garros, est-ce que ça rend addict ?
Par contre, là où Bruno Humbeck s'inquiète davantage, c'est sur notre dépendance au regard des autres, ceux qui regardent, ceux qui commentent et likent nos publications.
Je peux devenir accro aux signaux de reconnaissance des autres. Je peux aussi être terriblement effrayé par les signaux de rejet. Tiens, j'ai reçu 30 likes et un dislike. Et surtout, j'ai pas reçu de like du tout. J'ai envoyé une image de moi alors que je viens de changer de coiffure ou j'ai inventé une petite danse. Et ça n'intéresse personne. Si ça n'intéresse personne, c'est que je ne suis personne. Et ça, c'est terriblement dangereux. Là, il y a une forme d'aliénation qui peut être très, très dangereuse. C'est celle que l'on donne au regard des autres. Le principe même de tous ces réseaux, de tous ces jeux, de ces applications, c'est de vous mettre en scène, non pas dans ce que vous êtes, mais dans ce que vous devez montrer aux autres, dans ce que vous souhaitez être. C'est terriblement différent. Et ça, effectivement, il faut que les adolescents apprennent à le gérer très, très tôt.
Mais comment on gère ça, justement ? Pour notre psychopédagogue, un premier truc, c'est d'arriver à se prouver à soi-même qu'on est capable, de temps en temps, de se passer de ce téléphone.
Des moments sans écran, ça peut être des journées entières si on a la capacité de le faire, mais là, il vaut mieux le faire ensemble. On peut le faire entre copains en disant, on va faire une journée tous ensemble sans écran. Tout seul, c'est trop dur. Il ne faut pas essayer tout seul, c'est un trop gros laps de temps. Un petit moment sans écran, et là, physiquement, on doit le mettre de côté. C'est-à-dire, surtout pas l'avoir sur soi, et être ailleurs. Être cette capacité de s'en passer physiquement, c'est un indice très très positif de désaliénation.
Stop ! Stop ! Stop ! Stop !
Et puis, autre défi, mais celui-là il est fameux, essayer de ne pas toujours se regarder dans le regard des autres.
Il faut essayer d'apprendre de plus en plus à se regarder dans le miroir et à se contenter de ce regard-là, sans chercher à le faire valider par les autres. C'est toute une histoire, hein, c'est parfois l'histoire d'une vie, hein, parce que l'origine de ce regard, on l'a puisé chez nos parents quand on était tout petit, avec un regard relativement inconditionnel, où tout ce qu'on faisait était considéré comme merveilleux, très beau, etc., etc. Et on va devoir progressivement... Là aussi, se désaliéner de ce regard-là pour porter un regard soi-même sur soi et sans utiliser les autres complètement, c'est-à-dire en ne leur donnant pas tout le pouvoir. Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi, c'est quelque chose qui est très sain sur le plan mental et que l'adolescent doit être en mesure de produire, au moins dans des moments de sa vie. Je fais une petite danse pour le plaisir de danser, pas pour me mettre nécessairement en spectacle sur TikTok avec le regard approbateur ou désapprobateur des autres.
Mais ça, évidemment, c'est facile à dire comme ça d'un point de vue théorique, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre concrètement. C'est quasi l'histoire d'une vie, nous dit Bruno Humbeck. Et toi d'ailleurs, qui nous écoutes, tu en penses quoi ? Et pourquoi ? Un podcast écrit par Arnaud Reussen, réalisé par Jérémy Boquet, avec à la coordination Pauline Sève. Merci aux élèves de l'école Sainte-Thérèse de Lierneux et de l'école du Tunbosch AXL de nous avoir accueillis pour cet épisode.